On va passer maintenant à la deuxième partie. Combien de temps il reste à peu près? Hein? Et 15. Alors un quart d'heure pour parler de la foi, la raison, la foi et la science. Alors vous savez, on en a déjà parlé à la première rencontre. Dire que je crois en Dieu, c'est de l'ordre de la foi, mais sans la foi, je peux dire Dieu existe. Alors je suis allé, je referai les enseignements audio, c'est pour ça que je m'accorde une certaine liberté dans la parole là, mais je vais vous conforter dans cela. Le Concile Vatican I, dans la Constitution Dei Filius, a défini que l'homme peut naturellement, sans la foi, démontrer que Dieu existe. Très intéressant. Ça a été repris dans Dei Verbum, dans Vatican II. Ça veut dire qu'en fait, si on a bien, si on réfléchit bien, même si c'est dur, on peut arriver à la démonstration de l'existence de Dieu. Et des penseurs l'ont fait. Aristote le démontre. Maïmonide, philosophe juif, le démontre. C'est très intéressant. Donc, penser que Dieu existe et régit l'univers, c'est pas d'abord un problème de croyance, c'est un problème d'intelligence. Voilà, c'est important de le dire. La foi, c'est la connexion avec cette pensée qui est un Dieu unique. On rentre en contact avec lui et il nous dit des choses supérieures qui est la révélation. Et il nous donne des choses que ma tête ne peut pas comprendre. Ma tête ne peut pas comprendre que le Dieu est Trinité, que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Ça, je ne peux pas le comprendre par ma tête. Mais je peux comprendre des éléments par ma raison. Et donc, quelque part, Jean-Paul II, quand il écrit, je redis des choses que j'ai dit, mais pour aller plus loin maintenant, quand il écrit l'encyclique « La foi et la raison », Fides et Ratio, il rappelle que l'homme va vers la vérité avec deux ailes, la foi et la raison. Et donc, il ne faut pas atrophier ni l'un ni l'autre. Le danger d'atrophier la foi, c'est qu'on n'a pas accès au salut, qui est donné en Jésus-Christ, ce qui est prioritaire, ce qui est premier, et aussi on n'a pas accès à des vérités qu'on ne pourrait pas obtenir par la pure raison. On atrophie une grande partie de la connaissance et notre finalité qu'est le salut. Mais l'autre côté d'atrophier la raison, ça serait le fidéisme. Je crois, je crois, je crois, mais sans réfléchir. Et ça, l'Église le condamne. Ça veut dire qu'en fait, je dois faire un acte d'intelligence là où j'en suis pour réfléchir sur ma foi. Parce que l'acte de foi demande aussi une collaboration de mon intelligence. Augustin dit, tu reçois dans la foi, crois pour comprendre, mais après, comprends pour mieux croire. Tu travailles ta foi. Donc c'est important. Donc foi et raison sont liées. Et que dans l'acte de croire, il y a toujours un travail de la raison. Le discernement, la réflexion utilise la raison. Vous voyez? Ça, c'est le propre du christianisme. Donc foi et raison, ça marche. Ça a toujours fait de pair. On va voir que même s'il y a eu des petits conflits historiques dus à la science, enfin à la science et l'Église, ça a toujours marché. Les pères de l'Église réfléchissent avec leur intelligence, avec leur savoir grec, leur philosophie, etc., sur la foi. Donc ça fonctionne. Les théologiens médiévaux réfléchissent à la foi en termes de science, d'intelligence et de foi. Et Thomas d'Aquin réintègre Aristote, qui est un penseur profane, dans la théologie de l'Église. Donc ça existait. À la Renaissance, on continue. Évidemment, on a eu l'affaire Galilée. On a eu des cas où l'Église... Et encore, il faudrait relire ça historiquement. Où de fait, il y a eu comme une sorte de divorce entre la foi et la raison. Avec le temps, les choses se sont apaisées, mais on ne peut pas dire que l'Église prône l'obscurantisme. L'Église prône au contraire la réflexion dans l'acte de croire. Et c'est tellement vrai qu'on pourrait dire ça au niveau de la foi, parce que Dieu a créé l'univers. Donc, il nous invite à aimer l'univers et à rendre l'homme responsable de la création. Soumettez la terre dans la Genèse. Donc, tu en prends soin, tu t'en occupes. Parce que Dieu est la source de l'intelligence. Le Verbe de Dieu, Jésus, la parole en grec, c'est le logos. C'est le discours. Et après, il y a plein de petits discours qui viennent de lui. Biologie, géologie. C'est que des petits discours sur lui qui est l'origine de la raison. Donc, c'est pétri de sens, en fait, Dieu. Parce que Dieu est plein de sens, qui nous demande d'aimer la création, d'en prendre soin, il nous demande de la contempler. Et donc, du coup, de la creuser au niveau de l'amour, mais aussi de notre intelligence. Et donc, quelque part, la science, pour un croyant, c'est un acte de contemplation, c'est-à-dire un approfondissement de l'amour de Dieu dans sa création, où je vais utiliser ma foi et mon intelligence pour savoir ce que Dieu a fait. Et je peux prier avec ma raison. Je peux être admiration devant des molécules. Quand je suis jardinier, je peux être en admiration devant les fleurs. Et de voir, ah mais dis donc, une graine, ça donne ça, ça marche bien. La graine de la marguerite ne donne pas un poireau, ça marche bien. Et puis il y a une unité. Je peux être en admiration dans l'histoire, comment Dieu oriente l'histoire. Je peux être en admiration dans l'art, comment toutes ces formes de beauté dans la nature, y compris dans le génie humain, Dieu permet ça parce qu'il est le plus grand artiste. Donc, il y a quelque part, mes capacités sont là au service de la contemplation, de la louange de Dieu, et j'y participe en œuvrant avec lui, en devenant co-créateur. Et en étant co-créateur, non pas en créant de rien, mais en participant à la création, pour l'achever, l'homme à sa part, et quelque part, l'homme fait la science. Donc vous voyez la science, et c'est très beau de voir que la science s'est développée très fortement dans le christianisme, ainsi que la technique, la technologie qui découle de la science. Tandis que dans d'autres civilisations orientales, la science n'a pas sa place tellement, ni la technique, c'est à part. Ça prouve que nous, on est beaucoup plus unifiés dans le science, foi et raison, parce que nous réfléchissons et nous vivons notre rapport au monde dans la foi en utilisant notre intelligence. Et que notre intelligence, comme Dieu est intelligent, ben nous aide à contempler Dieu. Il y a une unité profonde chez nous. Et on voit, dans l'essor du christianisme, c'est l'essor du progrès scientifique et des technologies. On est cette culture. Et en fait, on doit en rendre grâce. Mais la limite, c'est que, et nous sommes touchés par cela fortement depuis plus d'un siècle, deux siècles, avec la révolution industrielle, c'est que nous pouvons, et peut-être même avant, mais je ne suis pas historien, c'est que nous pouvons contempler la nature et faire de la nature simplement notre objet de désir. La technique peut finalement mettre la main sur la nature, mais ne plus la contempler. Et on voit ça, à ce moment-là, on peut devenir comme Dieu. Ce qu'a dit Michael, qui est comme Dieu, on peut le dire pour nous-mêmes. On ne reçoit plus les lois de la nature, les lois naturelles, et on déforme. Je peux faire avoir à n'importe qui un enfant, dans n'importe quelle situation. Je peux faire n'importe quoi avec la nature, dans les champs, etc., parce que j'en prends plaisir, jusqu'à une guerre atomique. Voyez. Donc, quelque part, l'homme a la main mise sur la créature, sur la nature, mais il n'en est plus le contemplatif, le gardien, et celui qui contemplait à travers la sagesse l'œuvre de Dieu. Et il se laissait instruire par elle. Et ça, c'est une déformation. Dans le domaine de la biologie, c'est très fort aujourd'hui. Tandis que dans le domaine de l'astrophysique, comme on voit bien que l'homme est complètement dépassé, généralement les astrophysiciens sont plus croyants. Et dans toutes les théories d'astrophysique aujourd'hui, se repose implicitement, je lisais récemment dans un Science et Vie, un philosophe des sciences qui disait, à partir du Big Bang, il faut réellement se reposer des questions métaphysiques sur Dieu. Parce que là, ça dépasse, parce qu'on sent que là, on n'a pas prise. Mais on devrait pouvoir dire la même chose du mystère de la vie, ou dans d'autres domaines. Mais là, comme l'homme s'est fait technicien dans le mauvais sens du terme, non plus au service, mais pour être maître, eh bien, il ne regarde plus l'origine des choses, et il n'est plus capable de voir que Dieu est créateur et a donné une finalité qu'il enseignerait. Vous voyez ? C'est un drame. Donc, notre foi nous apprend à aimer, à investir les champs de la science, parce que c'est un acte croyant, un acte profondément humanisant, et c'est collaborer à l'œuvre de Dieu. Et nous voyons qu'à une époque, il y a pu y avoir, et il faut tenir, il y a une autonomie des savoirs. Je crois que c'est... Non, je ne le dis pas. Quand je réécrirai l'enseignement, je le dirai. Je ne vais pas vous induire en faux. Mais il y a une autonomie des savoirs. C'est-à-dire, il n'y a pas de mathématiques catholiques. Il n'y a pas de psychologie catholique. Il y a une autonomie des savoirs qui est nécessaire. C'est important. Et il a fallu des fois se battre pour cette autonomie dans l'histoire. Et il a fallu aussi accepter qu'il n'y ait pas de confusion dans les domaines. Ce n'est pas parce que Dieu crée, l'Écriture nous dit que Dieu crée en 7 jours, que le cosmos s'est créé en 7 jours. Donc il a fallu dépasser le créationnisme, le fondamentalisme, ou même de dire, l'Écriture nous dit ça, donc la science nous dit ça, donc on va essayer de bidouiller, ça s'appelle le concordisme. Tout ça, c'est des hérésies. Non, on sépare bien les domaines. Et pourtant, la foi, l'Écriture, nous dit quelque chose d'une sagesse humaine, d'une sagesse aussi de Dieu, sur le monde. En gros, la science nous dira le comment ça se fait, mais jamais le pourquoi et le en vue de quoi. Or, c'est ça qui est profondément humain. Et donc, il nous faut réconcilier les choses sans confusion, en respectant l'autonomie, et donc on voit qu'on est en dialogue. Et de plus en plus, science et foi sont en dialogue. Et comme elles sont en dialogue, les papes l'ont dit, Jean-Paul II l'a dit, la science purifie la raison. Très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, non, la science purifie la foi. Sous-entendu, il y a des éléments de foi, non pas que la foi est touchée, mais la manière dont je crois peut être purifiée, moins crédule, des fois, par le fait de l'avancée scientifique. Parce que c'est une recherche de la vérité qui va m'amener à une plus grande vérité. Voyez ? Ça, c'est important. Et inversement, la foi va m'aider à aimer, à comprendre la sagesse dans ce que je découvre et son unité. Donc, dans ce dialogue qui aujourd'hui, depuis quelque temps, a accéléré entre science et foi, l'Église nous invite à l'unité. Et pour les éducateurs, pour les parents, pour les grands-parents, comme pour les professeurs, il y a un enjeu d'unité dans les savoirs, sans confusion. Mais dans l'unité, c'est-à-dire créer des bonhommes qui soient unifiés, non pas qui cloisonnent les choses. Et vous voyez, nous, notre foi croyante, il nous faudrait nous réinvestir sur le Dieu créateur, le cosmos, la création, ce dans les domaines où nous sommes diversifiés, pour dire, mais là-dedans, ma foi me parle. Et pas simplement être que uniquement dans le Dieu rédempteur, parce que ça, c'est une réduction de la foi. Et nous voyons, là, nous sommes atrophiés. Cet travail de la science et la foi, l'Église l'a fait dans le domaine du biologique, avec la bioéthique. Elle l'a fait, elle le travaille dans le domaine de la cosmologie, dans le domaine de l'astrophysique. Elle le travaille dans le domaine de l'anthropologie. On voit bien que maintenant, pour aider une personne humaine, il nous faut travailler au niveau psychologique, au niveau philosophique, au niveau spirituel, au niveau relationnel. Donc il y a une unité. Elle l'a déjà fait dans l'Écriture. Je vous en parlais à la parole de Dieu. Il y a eu tout un travail de la science pour vérifier les présupposés des textes. Mais Benoît XVI le rappelait dans Jésus de Nazareth, si on en reste au bout d'un moment des présupposés des textes et même la dimension historico-critique, ça ne donne pas la foi. Donc il faut retrouver les deux. Vous voyez, foi et science sont liées. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur des avancées aussi, on pourrait se réfugier dans la foi. Il ne faut pas avoir peur. Je prendrai un dernier exemple, c'est Pie XII qui fait des recherches scientifiques sur le tombeau de Pierre. La tradition tenait depuis des siècles que Pierre était enterré sous la basilique Saint-Pierre. Voilà. Et Pie XII, à un moment donné, a dit « Bon, ben, on va faire des recherches. » Et certains cardinaux ont dit « Surtout pas. Si jamais on ne trouve pas, on a l'air de quoi ?» Et le pape, au nom de la vérité, on creuse. Ils ont creusé et ils ont trouvé. Au départ, ils n'ont pas trouvé exactement ça. Donc, ça a un peu mis mal à l'aise. Mais ils ont continué à creuser, puis ils ont trouvé. Alors, ils ont creusé et ils ont trouvé plusieurs tombes, dont une tombe. Je ne suis pas archéologue, mais je le raconte parce qu'on me l'a dit, des présentateurs, les guides me l'ont expliqué. Ils ont trouvé une tombe d'un gars assez trapu, pêcheur de l'époque, etc. Et donc, on en a compris que c'était Pierre. Voilà. Il y a très forte probabilité. Voilà. Après, il y a eu des histoires au niveau de comment les pièces ont été rapportées. Mais c'est vraiment, je veux dire, on a des éléments historiques. Et on l'a fait au nom de quoi ? Au nom de la vérité. Et que notre foi aussi repose sur des éléments vrais. Je veux dire que si, par exemple, on trouvait le corps du Christ, ce qui est impossible, ben, il nous faudra accepter que le Christ n'est pas ressuscité. On doit accepter l'âpreté de la science, au nom que Dieu crée et qu'il a utilisé des lois et que ces lois physiques nous permettent d'aborder le monde. Mais en aucun cas, elles sont suffisantes, vous voyez ? Voilà.